Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette table ronde pour m'avoir invitée. Invitation motivée par le fait que j'avais soulevé, aux dernières rencontres, la question des archives des revues dont nous avons les uns les autres la charge. Dans un premier temps, je me suis sentie emballée que la question ait retenu l'attention du réseau et de ses organisateurs. Mais dans un second temps, plus la date s'est rapprochée, plus l'angoisse s'est cristallisée autour du fait que je devais vous faire part d'un retour d'expérience dans le cadre du poste que j'occupe pour la revue Clio, je me suis alors interrogée sur le comment je m'étais retrouvée dans cette galère et quelle idée m'avait prise de poser cette question. Avec bientôt 35 ans au sein de cette prestigieuse maison qu'est le CNRS, ayant joué le jeu d'une mobilité raisonnée, armée d'une formation en histoire, j'ai compris que c'est ma vision globale sur le temps long que je pouvais rapporter aux plus jeunes générations qui poursuivent l'aventure. Me retrouvant plus proche d'une retraite bien méritée, à moi la plage, coquillages et crustacés, j'ai saisi que la teneur de ma question révélait une autre angoisse, plus psychanalytique cette fois, celle de la disparition. De la disparition des sources, bien entendu. Et je me suis remémoré tout ce qui avait insidieusement alimenté cette sensibilité au cours de mon parcours et des postes que j'avais occupés jusqu'à ce jour. Rappelons tout d'abord quelle formation est la mienne. En fait, elle est double. Alors que j'intégrais toute jeune le labo dirigé par Pierre Vidal-Naquet et Jean-Pierre Vernant, c'est pour vous dire, comme aide documentaliste, avec pour projet d'informatiser la bibliothèque, je suivais en parallèle un cursus d'histoire. J'acquis ainsi des compétences en bibliothéconomie et m'initiais aux problématiques historiques. À l'époque, la recherche se faisait donc dans des petites unités, singulières, disséminées ici et là, et qui s'articulaient autour de grandes personnalités. C'était les années 80, et on n'avait pas encore l'utilisation d'Internet. De ce fait, on avait une forte conscience de la nécessité de conserver, de coter, de localiser. Quant à la notion de réseau, elle s'appuyait, en dehors des questions d'affinité amicale et intellectuelle, sur l'échange des tirés à part, annotés, dédicacés, etc. Ou encore dans l'organisation de rencontres internationales, et les budgets le permettaient encore. Mais tout ceci constituait une matière qui pouvait devenir elle-même un objet d'étude et d'histoire, et de cela, nous en avions conscience. Mais nous arrivions encore à maîtriser le flux des données, des correspondances échangées. Rigueur et discipline s'imposaient d'elles-mêmes. J'ai ensuite intégré, c'était les années 90, l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Héritier du fonds d'archives de la Seconde Guerre mondiale, on avait là le meilleur terrain, le meilleur exemple d'une collaboration presque naturel entre chercheurs, documentalistes, archivistes et secrétaires de rédaction, une démarche qui allait de soi. Parallèlement, la démocratisation d'Internet se poursuit. On s'en empare, on s'émerveille de l'horizon qui s'ouvre et des possibles. Voilà. Mais de mon côté, je poursuis ma mobilité et intègre la revue Paléorient, toujours comme secrétaire de rédaction. La problématique de conservation est alors différente. Il s'agit de sauver des collections dont certains volumes deviennent épuisés. C'est donc la grande époque de la mise en place de Percé, par exemple. D'autant que des incidents d'actualité viennent renforcer l'idée que même les bibliothèques ne garantissent pas la pérennité de nos productions. Il y avait eu la grande inondation de Prague, l'incendie de la bibliothèque de Lyon. On a là une vision patrimoniale de sauvegarde. En ce qui concerne la vie même de la revue, on n'avait pas de politique d'archivage mise en place. Donc je me débrouille avec mon expérience passée, pas plus. Mais c'est là que la MSH est dotée d'un poste occupé par Elisabeth Bellon et que j'ai vu naître la naissance de ce service d'archives que Aurélie vient de décrire. J'étais fortement impressionnée par le travail qu'effectuait Elisabeth, qui, avec beaucoup de modestie et beaucoup de gentillesse, a réussi à sensibiliser autour d'elle les équipes qui cumulaient dans un bordel monstre tous leurs papiers. On est aussi au cœur de la grande controverse des années 2000 qui agitait les revues autour de la question du papier et du numérique et des évolutions qui allaient accompagner ce bouleversement. On me charge d'ailleurs de mener cette première enquête auprès de nos abonnés et peut-être que Daphné, actuellement en poste à Palais-Orient, en aura trouvé quelques traces. Depuis, les controverses, les polémiques, les résistances en faveur de l'abandon ou non du papier au profit du tout numérique, vous les connaissez aussi bien que moi, et nous avons tous plus ou moins de bons arguments pour défendre nos positions, mais là, on ne va pas réouvrir le débat. Mais tout cela nous ramène à aujourd'hui, où Clio, dont je m'occupe, se trouve intégrée dans un service de publication localisé à la MSH Paris Nord, un service qui, avec l'arrivée de nouvelles revues, a pour ambition d'évoluer en pôle éditorial. Mais nous n'avons pas de service d'archives et donc nous avons nous-mêmes à construire ce travail ou cette réflexion autour de l'archive. Et c'est pourquoi j'étais contente de soulever cette question, d'inviter parmi nous des archivistes qui allaient nous donner des outils. Et d'ailleurs, je suis tout de suite allée voir sur le site de la MAE ce travail qui s'était poursuivi et j'ai mesuré comment en 20 ans on avait là à disposition un outil incroyable. Et plutôt que de refaire ce qui a déjà été bien fait par ailleurs, il peut y avoir d'autres services d'archives, mais en tout cas ça m'a permis, connaissant Elisabeth, de pouvoir aller la voir, lui demander conseil et lui demander même si on pouvait s'inspirer, voire même utiliser le travail qui était le vôtre sans idée de pillage et voire même se faire accompagner et bien entendu comme à son habitude et comme votre petite équipe le défend avec beaucoup de gentillesse, se propose de nous aider. Donc mon intervention n'est pas très longue puisque je vais conclure donc sur l'idée qu'aidée par nos collègues et conseillés dans les méthodes à appliquer, il nous revient aujourd'hui d'essayer d'adopter de bonnes pratiques qui nous permettent de rendre possible l'étude du fonctionnement institutionnel, mais aussi intime de nos revues pour les inscrire dans le champ historique ou d'autres disciplines qui peuvent être intéressées par cette épistémologie de l'édition.